Auguste Rodin, La beauté de la femme. L'hôtel de Biron, qui naguère encore était le couvent du Sacré-Cœur, est, comme l'on sait, occupé à l'heure actuelle par des locataires au nombre desquels est le statuaire Rodin. Le maître a d'autres ateliers à Meudon et à Paris, au dépôt des marbres. Mais il a une prédilection pour celui-ci. C'est, à vrai dire, le plus beau séjour que l'artiste puisse rêver. L'auteur du Penseur dispose là de plusieurs vastes salles très élevées, aux lambris blancs, harnais de moulures charmantes et de filets d'or. L'une de ses pièces, celle où il travaille, est en rotonde et donne par de hautes portes-fenêtres sur un admirable jardin. Depuis plusieurs années, ce terrain est laissé à l'abandon, mais l'on distingue encore, par les herbes folles, les anciennes lignes de buis qui embardaient les allées. L'on discerne, sous les lits fines fantasques des tonnelles aux merveilleux treillis, et à chaque printemps, dans les plates-bandes, les fleurs reparaissent vivaces au milieu des graminées. Rien n'est plus délicieusement mélancolique que cet effacement progressif du travail humain sous la nature libre. À l'hôtel de Biron, Rodin passe presque tout son temps à dessiner. Dans cette retraite monastique, il se plaît à s'isoler devant la nudité de belles jeunes femmes et consigner en d'innombrables esquisses au crayon les souples attitudes qu'elles prennent devant lui. Là où des vierges firent leur éducation sous la tutelle de sainte fille, le puissant statuaire honore de sa ferveur la beauté physique, et sa passion pour l'art n'est pas moins dévote, assurément, que la pitié dans laquelle furent instruites les élèves du Sacré-Cœur. Un soir, je regardais avec lui une série de ses études, et j'admirais les harmonieuses arabesques avec lesquelles il avait reproduit sur le papier les divers rythmes du corps humain. Les contours lancé d'un jet, évoquait la fugue ou l'abandon de mouvements, et son pouce, qui était revenu sur les traits pour les estromper, avait interrompu, exprimé par un très léger nuage, le charme du modelé. En me montrant les dessins, il revoyait en esprit les modèles d'après lesquels il les avait exécutés, et à tout moment, il s'écriait « Oh, les épaules de celle-là, quel ravissement! C'est une courbe, une parfaite beauté! Mais mon dessin est trop lourd! Oh, j'ai bien essayé, mais... Tenez, voici une seconde tentative, d'après la même femme. Cela se rapproche davantage, mais pourtant... Et regardez la gorge de celle-ci. L'adorable élégance de ce renflement, oh, c'est d'une grâce presque irréelle. Et les hanches de cet autre, quelles merveilleuses ondulations, quels exquis enveloppements des muscles dans la suavité de la surface. Oh, c'est à se prosterner devant. Ses regards se perdaient dans la contemplation de ses souvenirs. On eût dit un oriental du jardin de Saint Mahomet. « Maître, lui demandai-je, trouvez-vous facilement de beaux modèles ?»« Oui. » »« La beauté n'est donc pas très rare dans notre contrée ?»« Non, dis-je. » »« Et se conserve-t-elle longtemps ?»« Oh, elle change vite. Oh, je ne dirais point que la femme est comme un paysage que modifie sans cesse l'inclination du soleil, mais la comparaison est presque juste. La vraie jeunesse, celle de la puberté virginale, celle où le corps, plein de sève, toute neuve, se rassemble dans la svelte fierté et semble à la fois craindre et appeler l'amour. Ce moment-là ne dure guère que quelques mois, sans parler même des déformations de la maternité, la fatigue du désir et la fièvre de la passion, directement, rapidement, et relâche les lignes. La jeune fille devient femme. C'est une autre sorte de beauté, adorable, cette sortie de cette beauté, admirable, encore, mais cependant moins pure. Mais dites-moi, ne pensez-vous pas que la beauté antique surpassait de beaucoup celle de notre temps et que les femmes modernes sont loin d'égaler celles qui posaient devant Phidias? Point du tout. Pourtant la perfection des Vénus grecques, mes artistes d'alors avaient des yeux pour la voir, tandis que ceux d'aujourd'hui sont aveugles. Voilà toute la différence. Les femmes grecques étaient belles, mais leur beauté résidait surtout dans la pensée des sculpteurs qui les représentaient. Il y a aujourd'hui des femmes toutes pareilles. Ce sont principalement les Européennes du Sud. Les Italiennes modernes, par exemple, appartiennent au même type méditerranéen que les modèles de Phidias. Ce type a pour caractère essentiel l'égalité de largeur des épaules et du bassin. Mais les invasions des barbares dans le monde romain n'ont-elles pas altéré par des croisements la beauté antique? Non. À supposer que les races barbares fussent moins belles, moins bien équilibrées que les races méditerranéennes, ce qui est possible, le temps s'est chargé de nettoyer les tares produites par le mélange des sangs et de faire reparaître l'harmonie du type ancien. Dans l'union du beau et du laid, c'est toujours le beau qui finit par triompher. La nature, par une loi divine, revient constamment vers le meilleur, tenu sans cesse vers le parfait. Et à côté du type méditerranéen, existe d'ailleurs un type septentrional, auquel appartiennent beaucoup de Françaises, ainsi que les femmes des races germaniques et slaves. Dans ce type, le bassin est fortement développé et les épaules sont plus étroites. C'est la structure que vous observez, par exemple, chez les nymphes de Jean Goujon, chez la Vénus du Jugement de Paris, ce peint par Watteau, chez la Diane de Houton. En outre, la poitrine est légèrement inclinée en avant, tandis que dans le type antique et méditerranéen, le thorax se redresse au contraire. À vrai dire, tous les types humains, toutes les races ont leur beauté. Il suffit de la découvrir. J'ai dessiné avec un plaisir infini les petites danseuses cambodgiennes qui vinrent naguère à Paris avec leur souverain. Les gestes menus de leurs membres graciles étaient d'une séduction étrange et merveilleuse. J'ai fait des études d'après l'actrice japonaise Hanako. On n'a point du tout de graisse. Ses muscles sont découpés et saillants comme ceux des petits chiens qu'on nomme fox terrier. Les tendons sont si forts que les articulations auxquelles ils s'attachent une grosseur égale à celle des membres eux-mêmes. Elle est tellement robuste qu'elle peut rester aussi longtemps qu'elle le veut sur une seule jambe, en avant, l'autre devant elle, en l'angle droit. Elle paraît aussi ainsi enracinée dans le sol, comme un arbre. Elle a donc une anatomie tout autre que celle des Européennes, mais cependant fort belle aussi, dans sa puissance singulière. Un instant après, reprenant une idée qui lui est chère, il me dit: En somme, la beauté est partout. Ce n'est point elle qui manque à nos yeux, mais nos yeux qui manquent à l'apercevoir. La beauté, c'est le caractère et l'expression. Or, il n'y a rien dans la nature qui ait plus de caractère que le corps humain. Il évoque par sa force ou par sa grâce les images les plus variées. Par moments, il ressemble à une fleur. La flexion du torse imite la tige, le sourire des seins, de la tête et l'éclat de la chevelure répondent à l'épanouissement de la corolle. Et par moments, il rappelle une souple liane, un arbuste à la cambrure fine et hardie. En te voyant, dit Ulysse à Nausicaa, je crus revoir certains palmiers qui, à Délos, près de l'autel d'Apollon, était monté de terre d'un jet puissant vers le ciel. D'autres fois, le corps humain, courbé en arrière, est comme un ressort, comme un bel arc sur lequel le Kairos ajuste ses flèches invisibles. Et d'autres fois encore, c'est une arme, une urne, et souvent fait asseoir par terre un modèle en lui demandant de tourner le dos de mon côté, jambes et bras ramenés en avant. Dans cette position, la silhouette du dos qui s'amincit à la taille et s'élargit aux hanches apparaît seule, et cela figure un vase au galbe exquis, l'amphore qui contient dans ses flancs la vie de l'avenir. Le corps humain, c'est surtout le miroir de l'âme. Et de là vient sa plus grande beauté. Chair de la femme, argile idéale, ô merveille, ô pénétration sublime de l'esprit, dans le limon que l'être ineffable pétrit, matière où l'âme brille à travers son suaire, boue où l'on voit les doigts du divin statuaire, fange auguste, appelant les baisers le cœur, si sainte que l'on sait, tant l'amour est vainqueur, tant l'âme est vers le ciel mystérieux poussée, si cette volupté n'est plus pas une pensée, et qu'on ne peut, à l'heure où les sens sont en feu, étreindre la beauté sans croire embrasser Dieu. Oui, Victor Hugo l'a bien compris. Ce que nous adorons dans le corps humain, c'est encore plus que sa forme si belle, la flamme intérieure qui semble l'illuminer par transparence.